Histoire de la Réformation en Europe au temps de Calvin, livre 2, chapitre 6. Qui sera le réformateur de la France, 1526. Sera-ce Lefebvre? Roussel? Sera-ce Farel? Roussel et les princes de la marche. Farel appelé dans la marche. Prosélytisme de Marguerite. Elle veut la sanctification. L'évangile relève de la faculté morale. Farel comme réformateur. Farel et Mirabeau. Comment Farel eût été reçu? L'appel de la marche arrive trop tard. Berquin mis en liberté. Ne sera-t-il pas le réformateur? Mariage de Marguerite et du roi de Navarre. Aspiration de la reine. Tout change dans le monde. Plusieurs chrétiens évangéliques pensaient comme Toussaint. Ils sentaient que la France avait besoin d'un réformateur et ne voyaient personne qui répondît à leur idéal. Il fallait un homme de Dieu qui, possédant les vérités fondamentales de l'Évangile, les exposât dans leur vivante harmonie, qui, tout en exaltant l'essence divine du christianisme, le présentât dans ses rapports avec la nature humaine, qui fût propre non seulement à établir la saine doctrine, mais encore à répandre par la grâce de Dieu une vie nouvelle dans l'Église, un serviteur de Dieu plein de courage, plein d'activité, habile à gouverner et à conduire. Il fallait un Paul, mais où le trouver? Serait-ce Lefebvre? Il avait enseigné clairement la justification par la foi, même avant Luther. Nous l'avons dit dans le temps et plusieurs l'ont répété dès lors. C'est un fait acquis à l'histoire. Mais Lefebvre était vieux et cherchait le repos. Il était pieux, mais timide, un savant de cabinet plutôt que le réformateur d'un peuple. Serait-ce Roussel? Doué d'une âme impressionnable et mobile, il voulait le bien, mais il n'osait pas toujours le faire. Il prêchait fréquemment à la cour de la duchesse, devant les hommes les plus distingués du royaume, mais il n'annonçait pas tout le conseil de Dieu. Il le sentait, il s'indignait contre lui-même, et pourtant, il retombait toujours dans la même faute. « Hélas, écrivait-il à Farel, il est beaucoup de vérités évangéliques qu'il me faut réduire de moitié. Si le Seigneur, par sa présence, ne ranime ma ferveur, je serai fort inférieur à ce que je dois être. » Le pieux mais faible Roussel était l'homme qu'il fallait à la duchesse, propre à répandre la vie chrétienne, mais sans toucher aux institutions de l'Église. Quelquefois pourtant, mécontent de sa situation, désirant évangéliser sans respect humain, il voulait partir pour l'Italie, puis il retombait. Les chrétiens les plus décidés sentaient son insuffisance. Ces clercs de la duchesse d'Alençon, qui restaient à moitié chemin, étaient incapables à leurs yeux de réformer la France. Il fallait, selon eux, un homme doué d'une âme simple, d'un cœur intrépide, d'une parole puissante, qui, cheminant de droit pied, donna une impulsion nouvelle à l'œuvre trop faiblement commencée par Lefebvre et ses amis. Et ces chrétiens, allant à l'autre extrême, pensaient à Farel. Ce réformateur était alors la plus grande lumière de la France. Quel amour que celui qu'il avait pour Jésus-Christ! Quelle éloquente prédication! Quelle hardiesse pour aller de l'avant et franchir les obstacles! Quelle persévérance au milieu des dangers! Mais ni François ni Marguerite ne voulaient de lui. Ils en avaient peur. Au moment où le roi avait rappelé tous les réfugiés, Farel ne l'avait pas été. Il était alors à Strasbourg, le pied sur la frontière, attendant toujours l'ordre du retour, mais cet ordre ne venait pas. On n'avait que faire de sa prédication agressive et de son héroïque fermeté. On voulait en France un évangile adouci, parfumé. Le noble dauphinois, en voyant tous ses amis rentrer dans leur patrie et lui seul rester dans l'exil, était consumé de tristesse et criait à Dieu dans sa douleur. Roussel comprenait les craintes de Marguerite. Farel, il le savait, n'était pas un homme de cour et ne pourrait jamais s'entendre avec la duchesse. Toutefois, connaissant le prix d'un tel serviteur de Dieu, le noble et pieux Roussel cherchait si l'on ne pourrait pas mettre autrement à profit sa grande activité et s'il n'y avait pas quelque province qui pût s'ouvrir à ses puissants travaux. « J'obtiendrai de quoi pourvoir à tous vos besoins, » lui écrivit-il le 27 août du château d'Amboise, « jusqu'à ce que le Seigneur vous donne enfin l'entrée et vous amène à nous. » C'était aussi le désir ardent de Farel. Il ne pensait point alors à la Suisse. Sa patrie avait tout son amour. Ses regards se dirigeaient nuit et jour sur ces portes de la France, si obstinément fermées. Il s'en approchait, il y heurtait, tout restant clos, il s'en retournait découragé et s'écriait « Oh, si le Seigneur voulait m'ouvrir une voie pour retourner et travailler en France !» Tout à coup, le plus cher de ses désirs parut devoir se réaliser. Un jour qu'il y avait grande réception à la cour, les deux fils du prince Robert de la Marche vinrent présenter leurs hommages à la sœur du roi. La Marche formait depuis le 8e siècle une principauté qui avait été en dernier lieu un apanage des d'Armagnacs et des Bourbons. L'Évangile y avait pénétré. Marguerite, qui avait à un si haut degré l'esprit de prosélytisme, dit à Roussel, en lui indiquant des yeux ceux dont elle désirait la conversion, « Parlez à ces deux jeunes princes, saisissez de grâce cette occasion d'avancer la cause de Jésus-Christ. » « Je la saisirai, dit le chapelain avec empressement. » En effet, s'approchant de ces jeunes seigneurs, Roussel mit la conversation sur l'Évangile. De Soucy et de Giminetz, c'était leur nom, ne parurent point étonnés et l'écoutèrent avec les marques du plus vif intérêt. L'évangéliste s'enhardit et leur exposa librement tout ce qu'il demandait d'eux. « Ce n'est pas pour vous, leur dit-il, que Dieu vous a fait naître, c'est pour le bien des membres de Jésus-Christ. Il ne suffit pas que vous embrassiez Christ comme votre sauveur, il faut encore que vous communiquiez la même grâce à vos sujets. » Roussel se complaisait dans l'idée de voir l'Évangile se répandre dans les frais pâturages que la Vienne, la Creuse, le Cher baignent de leurs eaux, à Guéret, à Bellac, dans tout l'ancien territoire des Lémovis et des Bituriges. Les deux jeunes princes, de leur côté, écoutaient attentivement le réformateur et donnaient à ses paroles le plus complet assentiment. Le chapelain de Marguerite fit un nouveau pas. Il crut avoir trouvé ce qu'il cherchait pour le zélé Farel. Et les fils de Robert de la Marche, lui disant qu'ils se sentaient trop faibles pour l'œuvre qui leur était proposée, « Je ne connais qu'un homme, leur dit-il, qui soit propre à un si grand travail. C'est Guillaume Farel. Christ lui a confié un talent extraordinaire pour faire connaître les richesses de sa gloire. Appelez-le. » Cette proposition ravit les jeunes princes. « Oh ! S'écrièrent-ils, nous le désirons plus encore que vous-même. Notre père et nous, nous ouvrons nos bras à Farel. Il sera notre fils, notre frère, notre père, qu'il ne craigne rien. Il demeurera avec nous, oui, dans notre propre palais. Tous ceux qu'il y trouvera sont des amis de Jésus-Christ, notre médecin, maître Henri, homme vraiment chrétien, le fils de feu le comte François, le seigneur de Château-Rouge et ses enfants, et plusieurs autres se réjouiront tous de son arrivée. Nous-mêmes, ajoutèrent-ils, nous serons là pour le recevoir. Seulement qu'il se presse, qu'il arrive avant le carême prochain. Je vous le promets, répondit Roussel. Les deux princes prirent l'engagement d'établir chez eux une imprimerie pour que Farel pût répandre par la presse les vérités évangéliques, non seulement dans la Marche, mais dans tout le royaume. Roussel écrivit aussitôt à son ami. Toussaint joignit ses instances à celles de Chapelain. « Jamais nouvelle ne m'a causé plus de joie, lui écrivit-il. Prenez votre vol et arrivez. » Les jeunes princes de la Marche ne furent pas les seuls seigneurs de la cour que l'influence de la duchesse d'Alençon attira dans les voies évangéliques. Marguerite était non pas de ceux qui crient à haute voix, dit un chrétien de son temps, mais de ceux dont toutes les paroles sont accompagnées de doctrine et trempées de douceur. Elle avait l'œil sans cesse au guet pour découvrir les âmes qu'elle pouvait attirer à son maître. Nobles, dames et demoiselles de distinction, gens de lettres, de robes, d'épées et même d'église, entendaient soit de sa bouche, soit de celle de Roussel ou de quelque autre de ses amis, la parole de la vie. Les nobles avaient une haine sourde, mais très ancienne, contre les prêtres qui, si souvent, avaient porté atteinte à leurs privilèges, et ils ne demandaient pas mieux que de s'émanciper de leur joug. Marguerite craignait que les jeunes seigneurs ne se convertissent qu'à demi, qu'il n'y eût en eux aucun renouvellement du cœur et de la vie, et l'histoire des guerres de religion n'a que trop montré que ces craintes étaient fondées. Sachant combien il est difficile de faire le tour, selon son expression, elle insistait sur la nécessité d'un christianisme réel, moral et disait à cette brillante jeunesse, attirée par les charmes de sa personne et l'éclat de son rang, « Pour être bien un vrai chrétien, il faut à Christ être semblable, renoncer tout bien terrien et toute gloire qui est damnable, tout plaisir qui la chair émeut, tout honneur, tout bien et ami, ah, ne fait pas le tour qui veut. Ces biens aux pauvres faut donner, d'un cœur joyeux et volontaire, puis les injures pardonner. À qui vous fait du mal, bien faire, laissez vengeance, ire endormie, aimer l'ennemi si l'on peut, aimer celle qui n'aime mis, ah, ne fait pas le tour qui veut. De la mort faut être vainqueur, et la trouver plaisante et belle, même l'aimer de meilleur cœur, que l'on aime chose mortelle, c'est jouir en mélancolie, dans tourment dont la chair se deut, aimer la mort comme la vie, ah, ne fait pas le tour qui veut. » Marguerite réussissait-elle? Une reine avec tout l'éclat de son rang n'est pas un bon réformateur. Il faut des hommes humbles et pauvres. Il y a toujours du danger à ce que les princes se fassent évangélistes. Quelques-uns de ceux qui les entourent deviennent facilement hypocrites. Marguerite attirait à l'évangile, mais la plupart de ceux qui étaient appelés par elle n'allaient pas loin et leur christianisme restait superficiel. Il y eut beaucoup d'intelligence éclairée dans les rangs élevés de la société française, mais il y eut peu de conscience saisie par la parole de Dieu. Plusieurs, et c'est une erreur fréquente dans tous les siècles, ne voyaient dans la doctrine de Jésus-Christ que des vérités intellectuelles. Fatale erreur qui peut décomposer la vie religieuse d'une église, détruire la vie nationale d'un peuple. Aucune tendance n'est plus contraire au protestantisme évangélique. Il relève non de la faculté intellectuelle, mais de la faculté morale. Quand Luther, dans le couvent d'Erfurt, était en proie à de terribles luttes, c'est que sa conscience agitait, cherchait la paix. Et l'on peut dire de la Réformation qu'elle commence toujours par des consciences qui se réveillent. La conscience est le palladium du protestantisme, plus que la statue de Pallas n'était le gage de la conservation de Troie. Si les nobles compromirent en France la Réformation, c'est que leur conscience n'avait pas été puissamment réveillée. Farel eût été l'homme propre à cette œuvre. Il était de ceux dont la parole simple, grave, vivante, entraîne les masses. Sa voix de tonnerre faisait trembler ses auditeurs. La puissance de ses convictions créait la foi dans leur âme. L'ardeur de ses prières les élevait jusqu'au ciel. En l'entendant, on ne sentait pas, comme dit Calvin, quelques légères pointes et piqûres, mais on était navré et percé jusqu'au fond, et l'hypocrisie était mise dehors de ces cachettes merveilleuses et plus qu'entortillées qu'elle a dans le cœur des hommes. Il démolissait et il édifiait avec une égale énergie. Sa vie même, apostolat plein de dévouement, de péril, de triomphe, était aussi efficace que ses discours. Non seulement il était un ministre de la parole, il était encore un évêque. Il savait discerner les jeunes hommes propres à manier les armes évangéliques et les diriger dans la grande guerre du siècle. Jamais Farel n'attaqua une place quelque difficile qu'en fût l'abord sans la prendre. Tel était l'homme appelé alors en France et qui semblait destiné à en être le réformateur. Les lettres de Roussel et de Toussaint qui invitaient Farel lui furent portées à Strasbourg et y arrivèrent dans le mois de décembre 1526. Farel, resté seul dans cette ville après le départ de ses amis, avait, nous l'avons dit, les yeux tournés vers la France. Il attendait encore, hésitant à se rendre en Suisse où on l'appelait. Mais ces portes de la France, dont il ne pouvait détourner ses regards, demeuraient toujours fermées. Il réfléchissait, il se demandait quelle place Dieu lui avait réservée. Son regard perçant eût voulu pénétrer l'avenir. Ne retournerait-il pas dans le Dauphiné? Il y avait à Gap, à Manosque, des parents favorables à l'Évangile. Son frère Gauthier, greffier de la cour épiscopale, son frère Jean-Jacques, qui exposait la Bible avec autant de hardiesse que lui, le notaire Antoine Alouat, qui avait épousé une de ses nièces, son beau-frère noble Honorat Riquetti, l'un des ancêtres de Mirabeau, nous apprend l'archiviste des Hautes-Alpes. Il n'y a certes pas de noms qui doivent être plus surpris de se rencontrer que ceux de Farel et de Mirabeau, et pourtant, entre ces deux Français, il y a au moins deux rapports, le pouvoir de leur éloquence et l'audace de leur réforme. Farel ne retourna pas à Gap. S'il y avait été, nous pouvons supposer comment il eût été reçu d'après une réception qui lui fut faite plus tard et dont un archéologue vient de retrouver les détails dans les annales des Capucins de Gap. Farel, déjà âgé, voulant prêcher l'évangile dans son pays avant que Dieu le rappelât de ce monde, y vint et s'installa aux portes de sa ville natale, dans un moulin à blé où il dogmatisa les paysans avec une Bible en français qu'il expliquait à sa façon. Nous donnons ce récit dans les termes mêmes de l'auteur catholique. Bientôt, il établit son prêche au centre même de la ville. Le Parlement de Grenoble désirait le faire brûler, disaient les Capucins. Farel répondit par un refus formel d'obéissance. Alors le vicaire, Benoît Ollier, très zélé catholique, escorté de plusieurs sergents et officiers de police, se rend à la chapelle où prêchait Farel. La porte est fermée, on heurte, personne ne répond. On l'enfonce, la foule est là, considérable. Nul ne détourne la tête, tous écoutent avidement la parole du réformateur. Les justiciers poussent droit à la chaire. Farel saisit le crime à la main, c'est-à-dire la Bible, suivant l'énergique expression des Capucins, est entraîné à travers la foule et écroué à la prison. Mais déjà les sectateurs des nouvelles doctrines étaient dans toutes les classes, dans la mansarde de l'artisan et dans la boutique du marchand, dans la maison fortifiée du Seigneur et même parfois dans le palais épiscopal. Le soir, les réformés, par la force ou par la ruse, tirent de prison le courageux vieillard. Ils le conduisent au rempart et le descendent dans la campagne à l'aide d'un panier. Des complices l'attendaient et le prédicateur s'échappa avec eux. Revenons en l'an 1526. Berthold Haller, le réformateur de Berne, appelé Farel en Suisse. Les Bernois possédaient certains districts dans la Suisse romande où un évangéliste de langue française était nécessaire. Les appels du pieux Haller se répétaient. Si la France se ferme, la Suisse s'ouvre. Farel ne peut plus en douter. Dieu l'éloigne de l'un de ses pays et l'appelle dans l'autre. Il obéira. Farel, le cœur brisé à la pensée que son pays le rejette, partit modestement à pied de Strasbourg un jour du mois de novembre 1526 et, remontant le Rhin, il se dirigea vers ces contrées des Alpes dont il allait devenir l'un des plus grands réformateurs. Il était en route quand le messager de Roussel et de Toussaint arriva à Strasbourg. C'était trop tard. Ses amis, sachant qu'il se rendait à Berne, firent suivre les lettres et ce fut à Aigle, où il s'établit comme maître d'école, que Farel reçut l'appel des seigneurs de la marche. Que fera-t-il? Il pouvait retourner. Abandonnera-t-il la vocation de Dieu et des seigneurs de Berne pour suivre celle que ses princes lui adressent? Une lutte mais il est trop tard. Dieu a parlé, se dit-il, et, quoiqu'appelé par des princes, Farel demeura sur le modeste banc de sa petite école, dans la petite ville d'Aigle, entre la dent majestueuse du Midi et les glaciers abrupts des Diablerets. Ainsi, le réformateur que plusieurs chrétiens rêvaient pour la France fut perdu pour elle. Elle n'était pourtant pas sans ressources. Elle possédait encore Berquin, que quelques-uns appelaient son Luther. Mais, tandis que les exilés et les prisonniers avaient entendu sonner l'heure de la délivrance, Berquin, tout en étant traité avec plus d'égards, était encore privé de la liberté. Marguerite ne se lassait pas de supplier le roi. Elle s'efforçait même d'apitoyer Montmorency, mais les théologiens romains mettaient tout en œuvre pour contrebalancer son influence. Amis et ennemis avaient également le sentiment que, si Berquin était libre, il porterait de rudes coups à la hiérarchie. Enfin, après une lutte de 8 mois, Marguerite l'emporta. Berquin sortit de prison en novembre 1526, au moment où Farel sortait de France. La duchesse d'Alençon fit éclater sa reconnaissance. Appelant Montmorency d'un nom encore plus affectueux qu'à l'ordinaire, « Mon fils, dit-elle, je vous remercie du plaisir que vous m'avez fait pour le pauvre Berquin. Vous pouvez dire que vous m'avez tiré de prison, car j'estime le plaisir fait à moi. « Monseigneur, écrivit-elle au roi, mon désir d'obéir à vos commandements était déjà bien grand, mais vous l'avez redoublé par la charité qu'il vous a plu de montrer au pauvre Berquin. Celui pour qui il a souffert aura agréable la miséricorde que vous avez faite pour son honneur à son serviteur et au vôtre, et la confusion de ceux qui ont oublié Dieu les ennemis des évangéliques, ne sera pas moindre que la gloire perpétuelle que Dieu vous donnera. » Berquin, devenu libre, se mit à méditer sa grande affaire, qui était d'abattre la puissance de l'erreur. Sa délivrance n'était pas à ses yeux un simple acquittement, c'était un appel. Il ne se souciait pas, comme l'en sollicitait Erasme, de jouir d'un doux repos sur les bords de la Somme. Ce qu'il voulait, c'était combattre. La vie de l'homme chrétien, selon lui, devait être une guerre perpétuelle. Point de trêve avec Satan. Or, Satan, pour lui, c'était surtout la Sorbonne. Il ne doutait pas plus de la victoire que si la guerre était déjà finie. Berquin était universellement connu, aimé, respecté. À la décision et aux ailes de Farel, il joignait une connaissance du monde qui était alors fort nécessaire. Marguerite tenait à lui au moins autant qu'à Roussel. On crut alors de sa prison. Berquin lui-même le pensa. Chacun se réjouissait et une circonstance importante vint encore rajouter aux espérances des amis de la Réformation. Marguerite eut une autre joie. François Ier s'aperçut enfin que Henri VIII préférait à son illustre sœur une de ses anciennes dames du palais, Anne Boleyn. Dès lors, il ne se montra plus contraire aux vœux du roi de Navarre. Et en novembre, il consentit à son union avec Madame d'Alençon. Le 24 janvier 1527, une cour brillante remplissait la chapelle du château de Saint-Germain, où le mariage de la sœur du roi allait être célébré, et toutes les bouches exaltaient le génie, les grâces, les vertus de la princesse. Marguerite de France et Henri d'Albret furent unis, et il y eut pendant 8 jours des joutes magnifiques. François Ier fit aux époux les plus belles promesses. « Soyez tranquille, dit-il à Henri, je sommerai l'empereur de vous rendre votre royaume de Navarre, et s'il s'y refuse, je vous donnerai une armée pour le reconquérir. » Mais peu après, ce prince faisant rédiger une pièce diplomatique où il engageait Charles Quint à lui rendre ses 2 fils, otages à Madrid, y insérait cette clause, « Item, promet le dit seigneur roi, non assister ni favoriser le roi de Navarre, combien qu'il ait épousé sa très aimée et unique sœur à reconquérir son royaume. » Marguerite pensait alors à autre chose qu'à des royaumes. En ce moment solennel de sa vie, elle tourna ses regards vers l'éternité et pencha son cœur dans le sein d'une amie. « Oh, dit-elle à Madame de la Rochefoucauld, 1000 occasions nous ôtent de ce monde, que nous soyons près ou loin, en guerre ou en paix, à cheval ou au lit, Dieu prend et laisse qui lui plaît. » La reine de Navarre éprouva même bientôt quelques mécomptes et s'aperçut que l'humeur de Henri d'Albret n'était pas toujours égale. Les faiblesses de son époux lui firent davantage chercher le saint amant, comme elle dit à Madame de la Rochefoucauld, et les noces si magnifiques dont on parla longtemps lui en firent désirer de meilleures. C'est alors qu'elle disait « Seigneur, quand viendra le jour tant désiré que je serai par amour à vous tiré, et que l'union sera telle entre nous qu'épouse on me nommera et vous l'époux. Ce jour de noces, Seigneur, me tarde tant que de nul bien ni honneur ne suis content, du monde ne puis avoir plaisir ni bien, si je ne vous y puis voir, las, je n'ai rien. » La prière n'était pas le seul bien de la nouvelle reine. L'action, la charité, l'empressement à venir au secours des autres ne lui procuraient pas moins de bonheur. Elle acquit par son mariage plus de liberté pour protéger la réforme. « Tous les yeux sont fixés sur vous », lui écrivait Capiton. Elle croyait que Roussel, son confesseur, et Michel d'Arande, son évêque, allaient avancer grandement le règne de Dieu et se réjouissaient de ce que les hommes de science et de moralité se prononçait tous les jours plus fortement en faveur de l'Évangile. Le monde était à l'un de ces moments suprêmes où il tourne sur ses gonds, et les amis des lettres et de l'Évangile se disaient que la France, ayant toujours été à l'avant de la société pendant le Moyen-Âge, ne se mettrait pas maintenant à l'arrière. La foi pure, pensait-il, pénétrerait dans toutes les classes, renouvellerait les sources de la vie morale, apprendrait à la fois au peuple l'obéissance et la liberté. Placé entre le Moyen-Âge et l'âge moderne, le père des lettres, François Ier, ferait en toute chose succéder les temps nouveaux aux temps anciens. Tout changeait, en effet. Les tours gothiques faisaient place aux créations de la Renaissance. les libres et classiques études succédaient à la scolastique des universités, et l'on voyait à la cour même, à côté des nobles et des prêtres, des personnages nouveaux, des philologues, des archéologues, des seule lui demeurera-t-elle fermée. La Renaissance avait ouvert les portes à des temps nouveaux, et la Réformation allait inspirer à la génération nouvelle la force nécessaire pour les franchir. Mais où était-il l'homme qui donnerait à son siècle, en des peuples divers et surtout dans les pays de la langue française, cette puissante et salutaire impulsion? Ce n'était pas Lefèvre, Roussel, Farel, Berquin. Qui était-ce donc? Il est temps de le connaître.